place des Nations Unies avec Charles-Antoine Bambara, porte-parole par intérim de la MONUSCO.
Voilà, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse des Nations Unies. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour monsieur. À la une de cette conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies, le rapport des Nations Unies sur les violences préélectorales en RDC, publié hier 8 décembre à Genève, avec 143 violations des droits de l'homme en lien avec le processus électoral, documenté donc par ce bureau. Nos invités sont donc David Gressler, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies RDC, chargé des opérations à l'Est, et bien sûr le directeur du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, Monsieur José María Aranaz. Et puis l'actualité des agences du système des Nations Unies portera sur les activités du HCR avec un afflux de réfugiés au Bazouélé en provenance donc du Sud-Soudan. Et puis Geneviève Delaunoy nous présentera aussi quelques actions menées par le PNUD, notamment à Kinshasa et à Bukavu. Mais comme d'habitude, nous aurons le lieutenant-colonel Martin Amoudjou Kojo qui depuis Goma nous fera un panorama de la situation militaire dans le pays. Voilà donc pour les titres de cette conférence de presse que nous ouvrons tout de suite avec les activités des différentes composantes de la MONUSCO. Et nous commençons tout de suite par l'information publique de la MONUSCO. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, donc en RDC, et chef de la MONUSCO, M. Maman Sidikou, a pour sa première sortie hors de la ville de Kinshasa, du 4 au 8 décembre de cette année, donc, a effectué une tournée à l'est du pays, notamment dans le territoire de Beni et aussi dans la ville de Goma, ainsi qu'à Bounia dans la nouvelle province de l'Ituri. Cette visite qui marque la première de sortie donc en RDC hors de la ville de Kinshasa de M. Maman Sidikou, il avait donc pour intérêt, en visitant cette partie, une partie soumise à toutes sortes de violences par les groupes armés, et cela s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les autorités locales, le personnel civil et militaire des Nations Unies, mais aussi et surtout pour exprimer au nom de la MONUSCO sa solidarité et sa compassion aux populations locales de cette région, victimes innocentes des groupes armés. À Beni, première étape de sa tournée, M. Sidikou a eu des échanges fructueux avec le maire de la ville, les membres du comité provincial de sécurité ainsi que la société civile, mais aussi le personnel de la MONUSCO déployé à la base de Mavivi. M. Sidikou s'est également rendu à Ouicha où il a rencontré l'administrateur du territoire avant de poursuivre sa visite à Irengeti où des crimes d'une extrême cruauté suivis d'incendies de maisons et de boutiques ont été commis par les rebelles de l'Alliance des Forces démocratiques ADF. Ce fut pour lui l'occasion de visiter l'hôpital de cette localité, également incendié et pillé, afin de recueillir des témoignages des populations, mais aussi d'exprimer sa solidarité au FRDC et au casque bleu du contingent malawite de la brigade d'intervention déployée à Irengeti. À Bounia, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a rendu une visite de courtoisie au nouveau commissaire spécial de la province de l'Ituri, rencontrer les représentants des agences du système des Nations Unies en service dans cette entité, ainsi que le personnel civil et militaire de la MONUSCO, dans le but de renforcer et de coordonner donc le travail de toute la famille onusienne au profit des populations civiles locales. M. Sidikou s'est également rendu à Geti, où il a rencontré le chef coutumier de la collectivité de Walendu Bindi, accompagné de ses administrés, et procédé à l'inauguration de 3 projets à impact rapide financés par la MONUSCO notamment, le commissariat de police et la prison de Geti, sans oublier la route reliant Bounia à Geti, réhabilitée par le génie népalais de la force de la MONUSCO. À Goma, Maman Sidikou a eu des entretiens et des échanges avec le personnel de la MONUSCO et inauguré en compagnie du vice-gouverneur de la province du Nord Kivu la maison de la presse financée par la MONUSCO dans le cadre des projets Impact Rapide au bénéfice des journalistes de l'Union nationale de la presse congolaise. Tout au long de cette tournée, une seule requête a été soumise de manière unanime à M. Sidikou par ses différents interlocuteurs, la paix, d'où la nécessité impérieuse de travailler ensemble, sans ménager aucun effort pour mettre un terme aux souffrances des populations civiles meurtries au plan sécuritaire et en besoin d'une assistance humanitaire accrue. Section protection de l'enfant à présent, durant le mois de novembre, 194 éléments enfants du moins ont été victimes de violences liées au conflit en RDC, 154 enfants associés au groupe armé, dont 134 garçons et 20 filles, se sont échappés ou ont été séparés des groupes armés dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Tanganyika et de l'Ituri. 8 filles ont été victimes de violences sexuelles, dont 19 enfants, 15 garçons et 4 filles ont été enlevés, 11 enfants, 6 garçons et 5 filles tués et 2 autres enfants, un garçon et une fille mutilés. 13 enfants ont été aussi libérés de la détention par la FRDC et la PNC après qu'ils aient été arrêtés pour motif d'association aux groupes armés. Le 29 novembre dernier, l'hôpital et le village d'Irengeti ont donc été attaqués par des éléments de l'ADF. Au cours de l'attaque de l'hôpital, un garçon de 2 ans a été brutalement tué et une fille de 15 ans a été gravement blessée à la machette. Au cours de l'échange de tirs avec les FRDC, 11 éléments de l'ADF ont été tués. Parmi eux se trouvaient 3 enfants, dont 2 jeunes filles. Il est inacceptable que l'ADF, comme tout autre groupe armé, utilise des enfants comme combattants et les forme à tuer des civils innocents. Il est inadmissible de mettre en péril la vie des enfants en les recrutant dans les groupes armés. L'ADF doit cesser immédiatement de recruter des enfants innocents et les auteurs de ces crimes odieux seront poursuivis et punis. Le 1er décembre dernier, 7 enfants dont l'âge se situe entre 1 et 8 ans ont été abandonnés dans la forêt et ont été secourus par les FRDC après une opération militaire contre les FDLR. Ces enfants ont été immédiatement remis à la section protection de l'enfant et la MONUSCO félicite les FRDC pour le sauvetage de ces mineurs. Sévèrement traumatisés, ces enfants ont été pris en charge par un partenaire de la section en attendant que soit retrouvée leur famille. La Journée internationale des droits de l'enfant commémorant le 26e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant a été célébrée le 20 novembre dernier. Une cérémonie officielle a été organisée à Goma sous l'égide du groupe technique de travail du Nord Kivu sur le plan d'action. La cérémonie a été marquée par la remise symbolique de plus de 10 000 cartes de poche aux forces armées de la RDC sur les règles et les normes interdisant le recrutement, la détention et les violences sexuelles perpétrées par les forces armées. L'événement a rassemblé au moins 300 éléments des FRDC, y compris des officiers de haut rang de la 34e région militaire. Par ailleurs, à Kamina, province du Haut-Lomami, 1710 éléments des FRDC ont bénéficié d'un programme de sensibilisation de 4 jours qui a porté sur 6 violations graves commises contre les enfants en période de conflit armé, le plan d'action et les techniques de vérification de l'âge. Voilà tout pour ces informations en provenance des différentes sections de la MONUSCO. Et nous allons poursuivre cette conférence de presse avec l'actualité maintenant au niveau des agences du système des Nations Unies. Une présentation assurée par Geneviève Delenoy. Geneviève, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup Charles. Bonjour à Kinshasa et à Goma. On commence avec une information émanant du HCR. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a enregistré plus de 5500 personnes qui sont récemment arrivées dans la province du Haut-Ouélé à la suite des affrontements récents au Sud-Soudan. Il s'agit de 3824 réfugiés sud-soudanais ainsi que 1735 rapatriés congolais. Ces derniers ont quitté le camp de réfugiés de Ezo au Sud-Soudan après des affrontements dans la zone entre un groupe rebelle et des forces armées SPLA. Les nouveaux arrivés se trouvent dans le territoire de Dungu. Il s'agit surtout de femmes et d'enfants. Les réfugiés et rapatriés sont accueillis dans des familles d'accueil, mais les conditions de logement sont difficiles car certaines familles n'ont pas assez d'espace. La mission menée conjointement avec le Programme alimentaire mondial et la Commission nationale pour les réfugiés a également constaté que les nouveaux arrivés ont des ressources limitées pour subvenir à leurs propres besoins alimentaires. L'enregistrement des réfugiés dans la région continue. Le HCR et ses partenaires évaluent les options pour soutenir ces populations. Le PNUD à présent, dans le cadre du programme d'appui au secteur de la microfinance, le PASMIF, le PNUD, conjointement avec UN Capital Development Fund, en coopération avec l'ambassade de Belgique, organise des ateliers sur la thématique du genre au sein des coopératives d'épargne et de crédit. Ces ateliers sont organisés avec l'Association professionnelle des coopératives d'épargne et de crédit, APROSEC, et se tiendront du 3 au 11 décembre à Kinshasa et ensuite à Bukavu. L'objectif est important. Il s'agit d'intégrer la dimension du genre pour améliorer les performances du secteur en matière d'inclusion financière. Cet atelier accueille près de 60 participants, hommes et femmes, dirigeants, dirigeantes et responsables au sein des coopératives d'épargne et de crédit. Pour rappel, les inégalités entre les hommes et les femmes en matière d'accès aux biens de production, à l'emploi et à la propriété limitent l'accès équitable aux services financiers. Cette inégalité d'accès contribue à perpétuer les inégalités de genre. Par exemple, l'étude du profil genre des coopératives de crédit et d'épargne réalisée en 2013 révèle deux éléments importants. Il n'y a que 25% de femmes et 75% d'hommes dans les organes de gestion des coopératives d'épargne et de crédit. Autre chiffre important, le crédit moyen accordé aux femmes est de 100 dollars, tandis qu'il est de 1200 dollars pour les hommes. Dernière information concernant le PNUD. Hier, 8 décembre, 1500 étudiants et étudiantes à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe se sont rassemblés pour participer à la journée de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et aux filles en milieu estudiantin. Cette année, vous le savez, c'est la 24e édition de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles et basées sur le genre, qui se déroule du 25 novembre au 10 décembre. Dans ce contexte, les ministres de la Femme, Famille et Enfants et de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi que l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune fille et à la petite fille, AVIFEM, et le Programme des Nations Unies pour le Développement ont organisé cette journée de sensibilisation. Pour la première fois au sein d'une université, un foyer de citoyenneté a été créé. Sa mission est double, sensibiliser les cadres et étudiants-étudiantes sur toutes les formes de violence dont ils ou elles sont victimes dans le milieu universitaire et soutenir les actions en faveur des droits humains et de l'équité genre. Vous savez que les écoles et les universités sont des endroits où non seulement d'apprentissage des lois, des valeurs éthiques, mais aussi un lieu où on apprend les bons comportements. S'ils sont bien intégrés et mis en application, ils pourront réduire durablement les préjugés et les stéréotypes qui sont à la base des violences sexuelles et de celles basées sur le genre. Lutter contre toutes les violences faites aux femmes et aux filles concerne donc tous les niveaux de la société, familiale, communautaire, scolaire, universitaire, sportif, culturel, coutumier, politique, social et économique. Et je vous rappelle également que le PNUD considère comme totalement inacceptable toute forme de violence à l'égard des femmes, des filles et des hommes en général. Respect total des droits humains. Merci. Merci à vous.
Voilà, merci donc à Geneviève pour ce tour d'horizon de l'actualité au niveau des agences du système des Nations Unies RDC. Tout de suite, direction Goma, où nous allons retrouver le lieutenant-colonel Martin Amoujou-Kodjo pour un tour d'horizon de la situation militaire en RDC. Colonel, c'est à vous. Bonjour.
Bonjour Charles. Bonjour à tous. L'environnement sécuritaire en République démocratique du Congo a été rapporté gouvernementalement durant la semaine dernière, sauf par les problèmes de l'Ouest et de l'Est, où des groupes armés continuent de perpétrer des exactions contre les populations civiles. À cause de la MONUSCO, conformément à son mandat et en coordination avec les forces armées de la République démocratique du Congo, poursuit les activités militaires contre ces groupes armés afin de protéger les populations. Dans les provinces du Haut et du Bas-Congo, les troupes de la force de la MONUSCO, en coordination avec celles de l'armée congolaise, soutiennent la lutte contre les activités négatives perpétrées contre la population civile par les éléments de l'armée de l'Islam du Sénégal. En outre, l'environnement sécuritaire est dominé par des meurtres, des pillages, embuscades et attaques perpétrées par les éléments du Front de résistance patriotique de l'Ituri à chaque pays dans les localités situées au-dessus du territoire du Rémi. La force de la MONUSCO, en coordination avec le FARDC, ont entrepris cette semaine de nouvelles opérations et conduit des patrouilles intensives afin de dominer le terrain et protéger la population civile. On a fini. La situation sécuritaire a été caractérisée d'une part par la poursuite des activités militaires dans le territoire de Béni, par la force de la MONUSCO en coordination avec l'armée congolaise contre les éléments de caractère de l'Alliance de force démocratique ADF, et d'autre part par l'activité des différents groupes armés rapportés dans les autres territoires de cette région. Les investigations et évaluations liées aux récentes attaques menées par les éléments de l'ADF contre les positions et la force de la MONUSCO, les FARDC et les populations civiles dans la localité du Mbéti sur le au 2 décembre 2015, le bilan de cette attaque fait état de 7 militaires de FARDC, 10 civils et 21 éléments de l'ADF tués. Dans les autres territoires de cette province, précisément à Lubero et Walikale, les éléments des forces démocratiques de libération du Rwanda FDRL et les divers groupes armés ont commis des meurtres, des enlèvements et des viols et pillé des biens de valeur. Des affrontements récurrents entre les FDRL et la coalition de groupes Marmaï dans les localités de Bukumbirwa et Rusambambo et autres ont provoqué des déplacements de populations vers la localité de Miriki. On compte actuellement plus de 4672 déplacés dans les écoles et environs de la base opérationnelle de la force de la MONUSCO de Miriki. Les casques bleus de cette base sécurisent ces déplacés et leur ont apporté une aide d'urgence en attendant l'intervention des ONG. Au chapitre de reddition dans cette province, du 2 décembre à ce jour, 18 éléments de groupes armés dont 4 FDRL se sont rendus aux troupes de la force de la MONUSCO. Au sud Kivu, en dépit de l'activisme de certains groupes armés, l'environnement sécuritaire demeure sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises. Au Katanga, la situation sécuritaire, quoique volatile, demeure sous le contrôle effectif des forces onusiennes et congolaises. Enfin, la force de la MONUSCO a mené 1180 patrouilles armées, dont 353 nocturnes, et fourni 62 escortes pendant la période sous-examen. Merci.
Voilà, merci donc au colonel Martin Amouzou depuis Goma pour ce tour d'horizon de la situation militaire en RDC. Et sans transition, nous passons tout de suite la parole à notre invité, José Maria Arana. Je vous rappelle qu'il est le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Bonjour, monsieur José Maria. Vous nous présentez aujourd'hui, ce matin en tout cas, un rapport sur la situation des violations des droits de l'homme en période préélectorale en RDC, un rapport qui a déjà été publié hier à Genève par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Merci donc de nous avoir rejoints. Quelles sont les grandes lignes de ce rapport qui déjà fait la une de plusieurs journaux, non seulement ici en RDC, mais hors de RDC, je crois. Bonjour.
Bonjour Charles, bonjour chers collègues de la presse. Ce que je veux dire, c'est l'information dans ce rapport, c'est une compilation de toute l'information que notre bureau a compilé depuis janvier dans le cadre du mandat donné par le Conseil de sécurité dans la résolution 2211. L'information était partagée avec les autorités de manière routinière. On a constaté quelque chose qu'on a dit plusieurs fois déjà. C'est d'un côté une tendance préoccupante à la restriction des libertés publiques qui peut avoir un impact négatif sur la crédibilité d'un processus électoral à l'avenir. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre chose, si on fait une lecture positive du rapport, ce que le rapport indique, ce qui marque, c'est qu'il y a encore du temps pour changer les courses des événements. Il y a des recommandations qu'on peut mettre en place ensemble avec les autorités, ensemble avec les partenaires, ensemble avec tous les acteurs politiques pour doter les processus électoraux à l'avenir de la crédibilité nécessaire. Et c'est ça que je vais faire emphasis, c'est les recommandations du rapport. Le rapport, le premier pas, c'est comme un diagnostic médical de la situation. Mais la deuxième partie, le fin du rapport, c'est le plus important. Ce sont les recommandations pour mettre en place des mesures pour améliorer et pour doter le processus électoral de la crédibilité nécessaire et avoir la confiance des citoyens de l'RDC d'un côté, mais aussi pour avoir la légitimité des résultats. Ça, c'est ce que je veux dire. Tu veux ajouter, David, quelque chose?
Non, je crois ce qui est important aussi à souligner, le fait que nous partageons avec le gouvernement le souhait que ce processus électoral se passe dans un contexte sans violence et aussi d'avoir des élections qui ne sont pas contestées. Donc, je crois à nous, ce sont des recommandations importantes pour achever ces objectifs partagés. Aussi, je dois dire qu'il y a des recommandations aussi pour la communauté internationale. On n'a pas encore souligné ça. Peut-être on peut dire un mot à propos de ça aussi. Merci.
Voilà, je crois que l'intégralité de ce rapport, donc sur la situation...